Après l'Amérique, l'Europe adopte la vaccination contre la poliomyélite. En France, c'est la petite commune savoyarde de Bellentre qui a eu les honneurs de la première vaccination massive. Tous les enfants et les jeunes gens, soit presque la moitié de la population du village, ont reçu une dose de vaccin mise au point par l'Institut Pasteur. En Allemagne de l'Ouest, une vaccination semblable a eu lieu parmi les moins de 4 ans. Si les parents étaient tous volontaires, les jeunes sujets ont diversement apprécié l'opération. De la réprobation caractérisée à l'indifférence la plus évidente, toute une gamme d'opinions a été exprimée. Défions-nous cependant des apparences. Ne confondons pas courage avec insouciance. D'un autre côté, disons-nous bien qu'il y aura toujours des gens fermés au progrès.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans les échos de l'innovation, nous nous retrouvons pour discuter ensemble de brevets et de vaccins. Je ne serai pas seul à faire ce voyage où se mêleront enjeux économiques, politiques et sociaux. Je serai accompagné de...
Marie, Juliette,
Titouan,
Florian,
et Oscar. Nous venions d'écouter une courte archive de l'INA qui a pour nom « Tous vaccinés contre la poliomyélite ». En effet, en 1957, dans un petit village de Savoie, les habitants découvrent la première campagne de vaccination. Déjà, l'opinion exprime sa méfiance. Néanmoins, cette campagne de vaccination obligatoire aura eu pour effet de presque éradiquer cette maladie. Mais tout d'abord, comment les vaccins aident-ils notre organisme ? En effet, les vaccins contiennent les éléments affaiblis ou inactifs d'un organisme particulier, que l'on appelle antigène, qui déclenche une réponse immunitaire dans l'organisme. Ces versions affaiblies ne causeront pas la maladie chez la personne qui reçoit le vaccin. En revanche, elles inciteront son système immunitaire à réagir comme il l'aurait fait lors de sa première réaction au véritable agent pathogène. Certains vaccins nécessitent l'administration de plusieurs doses, à des semaines ou des mois d'intervalle. Cela est parfois nécessaire pour faciliter la production d'anticorps à longue durée de vie et la formation de cellules mémoire. Ainsi, l'organisme est entraîné à combattre l'organisme à l'origine de la maladie, en développant une mémoire de l'agent pathogène afin de pouvoir le combattre rapidement en cas d'exposition future. Mais aussi, qu'est-ce qu'un brevet ? Le brevet est un titre ou un droit de propriété intellectuelle qui permet de protéger une invention. En fait, le brevet protège une innovation technique pendant une durée allant jusqu'à 20 ans. Il est interdit toute utilisation de cette invention sous autorisation du propriétaire. Les conditions pour pouvoir déposer un brevet sont que le produit ou procédé apporte une solution technique à un problème technique. Aussi, l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'applications industrielles. Aussi, le but du brevet est de permettre l'accessibilité d'une nouvelle connaissance à la collectivité. Et donc, cette idée doit être suffisamment concrète pour être industrialisée. Cette innovation ne doit pas faire partie de l'état de l'art d'antérieur. C'est un mot barbare pour dire qu'en gros, cette innovation doit témoigner de l'inventivité de l'auteur. En fait, l'idée est que cette solution n'est pas intuitive et doit être en césure par rapport aux techniques passées. Maintenant, imaginons que nous ayons trouvé une idée révolutionnaire et que nous réussissions à obtenir un brevet. Qu'est-ce que cela nous apporte concrètement ? Nous aurions le monopole d'exploitation pendant une durée de maximum 20 ans. Pendant ce laps de temps, nous serions les seuls à pouvoir produire notre innovation, sauf si l'on donnait notre accord à une autre personne. On dominerait donc le marché économique et percevrait les pleins profits de notre innovation. Mais alors, quel est le lien entre les vaccins et le brevet ? Il est très simple en vérité. Les vaccins sont considérés comme des innovations et sont donc brevetables. Cependant, différemment d'autres innovations plus techniques, la question de la légitimité de ces brevets sur les vaccins est remise en cause et grandement débattue, notamment au sujet des vaccins contre le Covid-19. En fait, il y a une dimension éthique et sociale qui s'ajoute au débat, comme nous allons le voir au cours de cette émission. C'est en effet le sujet des échos de l'innovation d'aujourd'hui. Doit-on lever les brevets sur les vaccins ? Nous allons commencer le sujet avec un petit quiz sur les idées reçues à propos des brevets et des vaccins, présenté par Juliette, Victor, Titouan et Marie.
Bonjour, alors je vais essayer de vous éclairer un peu l'esprit sur des petites remarques qu'on entend pas mal quand on regarde des émissions qui traitent de cette question de brevetabilité des vaccins. C'est pas simple à dire. Parce que ces remarques, elles sont souvent loin d'être anodines et elles peuvent être vraies ou fausses. Et on va un peu démêler tout ça tout de suite. Donc le principe est simple, je vais vous donner une affirmation, vous me dites si c'est vrai ou faux selon vous. Première affirmation, les vaccins sont des médicaments.
Alors bonjour Juliette, du coup pour moi il me semble que les vaccins ce sont des médicaments, mais ils sont quand même des médicaments particuliers puisqu'ils agissent sur une personne en bonne santé, même s'ils sont des médicaments, qu'ils subissent des tests, même parfois plus stricts que des médicaments, etc. Je comprends le doute qui plane sur la question.
Excuse-moi. Est-ce que tu aurais la définition de médicament ? Peut-être que ça pourrait t'aider à répondre.
Je me suis un peu renseignée. Et un médicament, ça a pour but de soigner. C'est toute substance qui soigne, mais aussi qui peut prévenir la maladie. Donc c'est là qu'en fait, un vaccin, il me semble que c'est du coup un médicament parce que ça prévient la maladie.
Ok. Et toi, Victor, t'en penses quoi ?
Alors moi, je pense que c'est vrai. Donc les vaccins, ce sont des médicaments. On va revenir un peu à la base des choses. Donc, il faut savoir que les vaccins, ils font partie du champ d'action de l'ANSM. Donc, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc, ce sont des médicaments. L'agence, il faut savoir que l'agence intervient dès la phase des essais cliniques. Elle accorde ensuite, au niveau national, son autorisation de mise sur le marché. On appelle ça AMM, en fonction de l'évaluation bénéfice-risque. Donc, l'AMM peut aussi être octroyée, puis pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne, par la Commission européenne après l'avis de l'Agence européenne des médicaments EMA. Donc l'ANSM poursuit son action en assurant la libération des lots, la surveillance de sa sécurité d'emploi et le contrôle de la publicité auprès du public et des professionnels de santé.
Ok, bon, Victor, tu m'as un peu coupé l'herbe sur le pied, je pense que t'as tout dit sur la question. Mais on passe à la deuxième affirmation et là ça va se corser un peu. Ce sont les industries pharmaceutiques qui décident de la levée ou non des brevets sur le vaccin.
Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que je n'ai pas la réponse. Mais moi, je pense qu'ils doivent avoir un rôle, parce qu'ils sont quand même dans les principaux concernés, il me semble, sur la question des brevets. Donc j'aurais tendance à dire qu'ils ont un rôle, mais à mon avis, c'est quand même pas eux qui prennent toute la décision. Mais je ne sais pas trop, franchement.
Oui, effectivement, c'est complètement faux, puisqu'en fait, la levée des vaccins relève donc de l'Organisation mondiale du commerce, qui est basé à Genève. En effet, pour une levée des brevets, il faudrait donc l'unanimité des voix des 164 pays membres de l'OMC. Aujourd'hui, on a plusieurs pays contre la levée de ces brevets. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada ou encore le Japon.
Ok, bah tu nous apprends quelque chose.
Oui, c'est ça. Titouan a raison. En fait, c'est l'OMC qui décide de la levée des vaccins. Et on pourrait avoir tendance à croire que ça favorise la levée des brevets. Il me semble que j'ai dit la levée des vaccins, c'est la levée des brevets, pardon. Donc, on pourrait tendance à croire que ça facilite en fait cette levée, puisque l'OMC, elle est moins investie, on va dire, que l'industrie pharmaceutique dans le sujet. Pourtant, comme il faut l'unanimité des voix, c'est très compliqué. Avoir 164 pays d'accord sur un sujet, c'est complexe et c'est ce qu'on observe, puisqu'on a notamment l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, tu les as cités à l'instant, qui font objection. Et en fait, pour comprendre leur objection, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, ce sont les pays développés qui possèdent la plupart des industries pharmaceutiques qui détiennent le brevet. Par exemple, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, elles sont américaines. AstraZeneca, c'est suédo-britannique. Sanofi, c'est français. Donc la levée des brevets, ça permettrait certes pour ces pays développés d'avoir d'autres entreprises qui viennent produire les vaccins, mais en même temps, ce serait surtout profitable aux pays en développement qui, eux, ne disposent pas d'entreprises possédant le brevet. Or, ce qu'avancent les quatre pays qu'on a cités, c'est que les pays en voie de développement, ils n'ont pas d'infrastructures suffisamment développées et ils manquent de savoir-faire. Donc, en fait, arrêter les brevets, ça ne leur permettrait pas de produire des vaccins. Et ça me permet de faire une transition parfaite avec ma troisième affirmation. Donc, les pays en développement, selon vous, ont-ils une capacité de production mobilisable pour produire le vaccin contre le Covid-19 ?
Alors, c'est vrai, moi je trouve que c'est... Enfin, tout le monde le sait que les pays en voie de développement n'ont pas assez d'infrastructures suffisamment développées pour produire de l'ARN messager. Donc c'est une technique sur laquelle est basé le vaccin. Donc il est en effet nécessaire de disposer d'équipements de pointe, comme des bioréacteurs, centrifugeuses, chambres froides, pour créer des vaccins, que ne possèdent pas les pays en voie de développement. C'est un peu le problème actuellement. La protection des brevets n'est pas le facteur qui empêche la production des vaccins. Le problème tient plutôt dans ce manque de capacité de production mobilisable. On peut aussi ajouter que la Banque européenne d'investissement aide également l'Afrique et d'autres régions à produire des vaccins localement. Donc on peut souligner que l'Afrique importe environ 99% de ses vaccins, ce qui veut dire qu'en Afrique, il n'y a aucune création de vaccins, quasiment pas. Il y a aussi une nouvelle installation de production de vaccins à l'Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, qui relève du plan de banque visant à combler une lacune à l'échelle du continent en matière de production et de distribution. Donc quelques citations. La pandémie du Covid-19 a mis en évidence la nécessité d'accroître la vaccination en Afrique, affirme Amadou Sol, directeur de l'Institut. Si l'on veut endiguer la transmission ou limiter la gravité de la maladie, nous devons vacciner davantage de personnes. L'Institut Pasteur de Dakar prévoit de fabriquer chaque mois jusqu'à 25 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 d'ici la fin de 2022, ce qui en fait un chaînon clé de la stratégie vaccinale de l'Union africaine et des centres africains de contrôle et de prévention des maladies. L'Afrique dépend entièrement des autres pays actuellement pour produire des vaccins et les mettre à disposition de sa population, déclare Ramon Inarraja, le représentant de la Banque européenne d'investissement au Sénégal. C'est pourquoi ce site du Sénégal est si important pour le continent.
Mais non, mais enfin, mon cher Victor, soyez raisonnable. Évidemment, cet argument est totalement faux, puisqu'il vient directement des industries pharmaceutiques qui font donc pression pour empêcher la levée de ces brevets. Et en effet, ils ont tout intérêt à faire pression, puisque cela se ferait au détriment de leurs profits. Et donc, il existe déjà beaucoup de fabricants de vaccins, en Afrique notamment, qui sont très qualifiés pour les produire. Comme exemple, il y a donc le vaccin contre la fièvre jaune. L'Institut Pasteur du Dakar est l'un des fabricants les plus reconnus pour ce vaccin, qui s'exporte aujourd'hui dans le monde entier.
Bon, il y a du vrai et du faux dans tout ce que vous dites, donc on va essayer de démêler un peu ça. Effectivement, il y a 10 fabricants africains de vaccins qui sont basés dans 5 pays, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. Et par exemple, vous avez tous les deux cités d'ailleurs l'Institut Pasteur de Dakar. Mais Victor a aussi raison, il faut apporter une nuance, parce que la technologie de l'ARN messager, elle est nouvelle. Et donc, elle demande certains équipements spéciaux et techniques que n'ont pas forcément encore l'ensemble de ces 10 fabricants. Donc pour l'instant, on ne peut pas affirmer avec une absolue certitude qu'ils seraient tous capables de produire ce vaccin d'un nouveau genre. Mais ça n'empêche pas que la réponse à cette affirmation, ce soit faux. Puisque dans tous les cas, dès 2020, le groupe américain Johnson & Johnson, il décide de sous-traiter à l'entreprise africaine Aspen la production de son vaccin Janssen. Donc jusqu'en septembre 2021, on a des vaccins, soit près de 20 millions de doses, qui sont assemblés et conditionnés dans cette usine de Port-Elisabeth et qui ensuite sont expédiés en Europe ou aux États-Unis. C'est seulement le 2 septembre 2021 que l'accord qui pousse l'entreprise sud-africaine à exporter ses doses hors de son continent qui est suspendu. Donc là, on voit bien à travers cet exemple que c'est uniquement le monopole qui est offert par le brevet à Johnson & Johnson qui empêche la distribution des doses sur le continent africain. Et ce n'est pas un manque d'équipement, puisque concrètement, en fait, le vaccin est déjà produit en Afrique. Par ailleurs, on a aussi un autre exemple. La directrice générale de l'OMC a affirmé que plusieurs pays, dont le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie, l'Afrique du Sud et le Sénégal, avaient déclaré disposer d'infrastructures nécessaires pour produire des vaccins. Et ces déclarations, elles ont été corroborées par le fait qu'en 2020, déjà, on avait des producteurs bangladais et pakistanais qui avaient proposé aux multinationales comme Moderna ou Pfizer de sous-traiter une partie de la production de vaccins, ce que ces entreprises avait refusé. Donc ce refus, il ne s'est pas arrêté aux producteurs des pays en voie de développement, il concerne aussi des producteurs canadiens, danois, israéliens. Mais en résumé, pour en fait avoir bien en tête les choses, les brevets, ils engendrent donc une capacité de production mondiale non exploitée et elle ne se limite pas, comme je viens de le dire, aux pays développés, mais elle concerne aussi les pays en voie de développement, contrairement à ce que défendent les industries pharmaceutiques. Et dernière affirmation maintenant, une fois la levée de brevets effectuée, il suffirait de quelques mois pour que les premières doses soient produites par les laboratoires nouvellement autorisés à développer le vaccin.
Alors moi, je pense que c'est faux. Enfin, ça me paraît un peu absurde parce qu'il faut un transfert de technologie tout d'abord. Donc, il faut savoir que le Centre mondial de transfert de technologie pour les vaccins à RNM a été créé en 2021 pour aider les fabricants des pays à revenus faibles, donc les pays en voie de développement souvent, ou intermédiaires. Donc, en Afrique, le transfert technologique sera assuré par un centre d'excellence et de formation. Donc, le Centre de transfert de technologie pour les vaccins à RNM situé au laboratoire Afrigène au Cap, en Afrique du Sud, qui collaborera avec un réseau de destinataires de la technologie. Donc en gros, ça va être pour leur expliquer un peu toutes les méthodes pour créer le vaccin. Donc en particulier, ce centre de technologie au laboratoire d'Afrigène partagera des techniques avec les fabricants locaux et l'OMS. En outre, les partenaires assureront une formation et un soutien financier pour constituer le capital humain nécessaire au savoir-faire en matière de production, au contrôle de la qualité et à la réglementation des produits, et apporteront une aide, le cas échéant, pour l'obtention des licences nécessaires pour faire les vaccins.
Ok, donc pour toi, ce partage de techniques entre les acteurs, il ne peut pas se faire à l'échelle de quelques mois, c'est ça?
Bah oui, ça va prendre pas mal de temps, je pense, pour apprendre toutes les techniques. Oui.
Et Marie, toi, t'en penses quoi?
Moi, je pense que c'est vrai que le transfert de technologie peut prendre du temps, mais comme on a pu le voir avec le vaccin pendant la crise du Covid, les vaccins à ARN messager étaient des technologies nouvelles sur lesquelles les firmes n'avaient aucune expérience de production à grande échelle avant le début de la crise du Covid. Et Pfizer et Sanofi s'intéressaient déjà à la technique et ambitionnaient à terme de devenir des leaders du secteur d'ici à quelques années. Mais les deux firmes ont dû accélérer et affiner leur capacité de production au fil de la crise. Et donc le premier vaccin est sorti le 8 décembre 2020, alors que le premier cas de Covid datait du 11 décembre de l'année précédente et l'urgence nationale déclarée par l'OMS le 30 janvier 2020, soit seulement 11 mois plus tôt. Donc on voit qu'ils ont pu faire ça en quelques mois, développer l'ARN messager.
Ouais, c'est exactement ça. Marie, tu as totalement raison. Et on pourrait prendre un autre exemple. Par exemple, le 1er mai 2020, Moderna, elle délègue à Lonza, un laboratoire suisse, la production de ses vaccins. Lonza, elle aménage l'équipement de deux de ses sites de production, en Suisse et aux États-Unis. Et avant l'été 2020, Lonza n'avait jamais fait d'ARNm thérapeutique. Mais le transfert de technologie de Moderna, il s'est fait tellement rapidement que la société a pu faire les premières doses dans les deux mois qui ont suivi l'accord. Donc au 31 décembre, alors que j'ai dit la date au départ, c'était le 1er mai 2020, le laboratoire il avait déjà produit 20 millions de doses. Donc oui, certes, il y a un transfert de technologie qui doit avoir lieu, mais il peut se faire très rapidement. Voilà, on va finir la chronique là-dessus.
Ben, merci.
On se retrouve tout de suite après une petite pause musicale.
Money, money, money.
Nous écoutions Money 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 du groupe ABBA. Et cette musique introduit la prochaine partie de cette émission, la rubrique socio-économique présentée par Juliette et Florian.
Oui, bonjour à tous. Alors maintenant, on va s'intéresser à la finalité première du brevet, c'est-à-dire les revenus qui sont associés. Alors tout d'abord, il faut savoir que le brevet dure maximum 20 ans et ces 20 ans, ils sont découpés en différentes phases. Donc il y a d'abord 10 ans de recherche et de développement, au cours desquels on recherche les molécules potentielles, on les teste, on les développe. Et donc pour donner un chiffre, on va passer de 10 000 molécules possibles pour le médicament à une seule molécule qui sera développée en tant que telle. Ensuite, après cette phase de recherche et développement, il faut compter 2 à 3 ans de procédures administratives. Donc avoir l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, qui est délivré par les autorités européennes et françaises, notamment, ou encore déterminer le prix de vente qu'aura le médicament sur le marché. Et après ça, on aura 7 à 8 ans de retour sur investissement. Donc le coût d'une molécule innovante s'est estimé à peu près 900 millions d'euros, donc ce qui est plutôt énorme. Ce retour sur investissement, il est assuré par le brevet. Et donc le brevet, il offre le monopole du marché à la firme pharmaceutique qui a développé le médicament. Donc c'est bien une protection nécessaire pour rentabiliser les investissements.
Exactement. Et comme en fait cette protection est nécessaire, s'il y avait une levée des brevets, eh bien ça diminuerait grandement l'intérêt des entreprises pour se jeter dans la recherche d'un vaccin qu'elles ne sont finalement pas sûres de réussir à développer. Et ceci, ça pourrait avoir des répercussions énormes en termes de santé mondiale. Entre le premier cas de Covid en décembre 2019 et la première dose de vaccin administrée en décembre 2020. L'Organisation mondiale de la santé, elle estime qu'il y a eu plus de 3 millions de personnes qui sont décédées du Covid-19. Donc on s'aperçoit bien que chaque jour compte quand une pandémie de la sorte se déclenche. Et la levée des brevets, qui pourrait être un frein à la recherche en urgence, puisqu'elle assurerait un moins grand profit, c'est un choix qui doit donc se réfléchir à deux fois. Par ailleurs, les revenus qui sont garantis par le brevet, eh bien, ils représentent une source de financement de la recherche et développement. Il s'agit d'un cycle virtueux. Les industries pharmaceutiques, elles investissent dans la recherche et développement afin de mettre au point une innovation telle que le vaccin. Ensuite, l'innovation, comme le vaccin, elle rapporte énormément à l'industrie grâce au brevet. Ce qui va encourager l'industrie à investir des fonds supérieurs dans la recherche et développement afin de favoriser le développement de nouvelles innovations et ainsi de suite. En somme, on peut résumer ça en disant que le brevet, eh bien, ça encourage les flux d'investissement vers l'innovation et le développement des nouveaux médicaments.
Oui, exactement. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur l'investissement vers l'innovation, on peut parler des maladies orphelines. Alors qu'est-ce que c'est ? Les maladies orphelines, c'est des maladies rares. Donc une personne sur 2000 qui est atteinte au maximum et ça touche environ 6% de la population européenne. Donc on peut voir qu'il y a plus de 7000 maladies rares et on en découvre encore tous les jours. Elles sont souvent d'origine génétique et la plupart, c'est-à-dire environ 60% des enfants qui sont touchés à la naissance, ils vont en mourir avant 15 ans. Donc comme maladie orpheline, on peut citer par exemple la mucoviscidose. On peut voir avec le Téléthon, chaque année, il y a des fonds qui sont soulevés pour la recherche, pour un traitement contre cette maladie. Il y a aussi le syndrome de Turner. Donc, c'est un syndrome qui ne touche que les filles et ça induit une toute petite taille. Donc, elles vont faire, à l'âge adulte, 1m30, 1m40 ou 1m50, même si toutes les filles qui font 1m50 ne seront pas atteintes de ce syndrome. Toutes ces maladies, elles sont peu communes, donc les industriels, pour eux, ça vaut pas trop le coup d'investir pour chercher des médicaments, vu qu'eux, ils suivent une logique lucrative. Donc, il n'y a pas de retour sur investissement, étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup de patients pour acheter les traitements. Donc ça, ça pose un vrai problème de santé. Et donc, pour compenser, eh ben, y a toute une série d'avantages financiers qui sont fournis par les politiques, notamment, qui sont fournis aux fabricants, comme par exemple la garantie d'un brevet plus long. Donc, au lieu d'avoir 20 ans de brevet, eh ben, on aura 30 ans de brevet pour s'ils trouvent un traitement contre la maladie orpheline. Mais il y a aussi d'autres avantages, par exemple, comme un prix de vente plus cher. Donc, le traitement, il coûtera, par exemple, 10 000 euros, mais ce sera remboursé par la Sécurité sociale. Et ça, ça permet d'encourager les industriels à plus investir dans les traitements des maladies rares.
Voilà, exactement. Donc, on voit bien qu'en fait, le brevet, eh bien, il semble profitable aux acteurs, enfin, tous les acteurs qui sont impliqués, puisque ça contribue à la prospérité de l'entreprise pharmaceutique. Et en même temps, là, tu as cité l'exemple des maladies rares, eh bien, ça permet à la population d'être mieux protégée avec le développement de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, de nouveaux traitements. Mais il faut nuancer en fait l'argument de l'absolue nécessité des brevets pour l'investissement dans la recherche. Il y a une très vaste partie des fonds qui sont consacrés à la recherche et développement des entreprises pharmaceutiques qui relèvent de fonds publics. Donc la plupart s'investissent par les États. On a aussi des dons, tu citais le Téléthon tout à l'heure. Donc par exemple l'État ou même les dons, ils n'ont aucune raison de moins investir dans la recherche et développement s'il n'y avait pas de brevet. Parce que leur but, pour eux, ils n'attendent pas en fait un retour sur bénéfice. Ils souhaitent simplement encourager le développement des médicaments pour protéger la population. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Et contrairement à ce qu'on entend beaucoup, l'investissement en recherche et développement, il n'est pas conditionné uniquement par les profits de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, je voulais faire un petit point sur ces derniers. Certes, on a une partie des profits qui est permis grâce aux brevets qui est investi dans les recherches et développement. Mais il faut aussi savoir que ces profits, bien, ils servent également aux actionnaires. Par exemple, à titre d'exemple, le PDG de Moderna, il est entré au classement des milliardaires français un an seulement après la mise sur le marché des vaccins de son entreprise. Donc, on voit bien qu'il y a une partie en fait, du bénéfice qu'a fait Moderna, avec son monopole sur le vaccin, eh bien, qui n'a pas servi la recherche et développement, mais qui a bien contribué à l'enrichissement personnel du patron du groupe.
C'est totalement ça. Et c'est malheureusement pas le seul problème qu'on rencontre avec l'existence des brevets. Regarde, je peux te citer l'inégale répartition des doses et des accès aux traitements entre les pays riches de l'hémisphère nord et ceux en développement de l'hémisphère sud, parce que les pays riches, ils ont accès au traitement grâce au... parce qu'ils peuvent justement se permettre de pouvoir payer, alors que les pays de l'hémisphère sud, justement, ils sont plus pauvres.
Ouais. Ouais, tu soulignes un point un peu complexe. C'est vrai que c'est bien de repenser à l'éthique dans tout ça. Et on le voit si on s'intéresse aux statistiques. L'objectif annoncé par l'Organisation mondiale de la santé en septembre 2021, c'était d'atteindre 70% de la population mondiale vaccinée d'ici mi-22. 8 mois plus tard, le nombre de personnes qui avaient reçu une dose de vaccin, dans la plupart des pays à revenus élevés, c'était bien supérieur à 70%. Donc on avait largement dépassé l'objectif. Par contre, le taux, il s'établissait à 15%, voire bien moins dans les pays à faible revenu. Donc là, on voit un problème majeur qu'impose le brevet, parce qu'en fait, il contribue à une inégale accès en fait, aux soins.
Tu as parlé du programme COVAX. Moi, j'aimerais aussi parler de l'accès aux traitements antirétroviraux pour traiter le sida dans les pays en voie de développement notamment. Il y a de nombreuses associations qui ont pointé l'obligation morale des riches à mettre à disposition des pays pauvres ce traitement parce qu'il est très cher, entre 10 000 à 20 000 dollars par an. Et surtout que leur production, à l'opposé, elle est très peu coûteuse, elle coûte à peine quelques dollars. Donc le problème, c'est que les pauvres, ils ne peuvent pas fabriquer le médicament parce qu'il est breveté. Et ça pose un problème éthique. Donc, est-ce qu'on les laisse mourir du sida ou est-ce qu'on leur donne les traitements gratuitement? Et justement, c'est la deuxième solution qui a été mise en place, notamment par l'OMS, l'ONU-SIDA ou encore des ONG comme Médecins Sans Frontières, par des fondations, par exemple celle de Bill Gates, des associations de patients, des particuliers, etc. Et tous ensemble, ils ont pu lever des fonds pour offrir ces traitements aux habitants des pays pauvres. Donc, ils ont récolté environ 10 milliards d'euros par an. Donc, notamment, je vous incite à aller voir le film 120 battements par minute qui raconte la lutte des associations contre le sida dans les années 90.
Juste, je voulais faire une petite précision pour nos auditeurs. Quand tu parlais de COVAX, c'est un programme qui a été organisé par l'Organisation mondiale de la santé et qui consiste à financer ou donner des doses de vaccins par des fondations, mais surtout en fait par des États les plus riches à destination des pays en voie de développement et les pays les moins aisés. Donc, par exemple, de mars 2021 à janvier 2022, on a plus d'un milliard de doses qui ont pu être financées et distribuées. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Malgré ces initiatives qui sont certes louables, on s'aperçoit que les pays développés ils restent bien en arrière dans le pourcentage de vaccination. Donc, ça ne peut pas compenser la levée des brevets.
Merci pour la précision, Juliette. C'est vrai que c'est très bien, ces dispositifs, COVAX, les associations qui permettent de réunir de l'argent pour venir en aide aux plus pauvres. Sauf que certaines firmes pharmaceutiques, en réponse à ça, parce qu'on les a incitées, donc elles se sont engagées à baisser les prix pour qu'il y ait un plus juste accès face aux différents traitements. Mais le problème qui était posé, c'est qu'il y avait des manques de transparence, que les systèmes de santé des pays pauvres, même avec le prix qui a baissé, il y avait une incapacité à pouvoir aussi accompagner les patients, mais aussi d'autres problèmes plus sociaux, comme des problèmes de prévention, parce que les malades, ils avaient peur d'être stigmatisés et de subir du racisme ou du sexisme, donc ils n'allaient pas chercher leur traitement à la pharmacie. Et les industries, elles avaient peur de perdre des revenus au détriment de la recherche, parce qu'elles ont peur que les industries des pays plus pauvres elles leur fassent concurrence, ou encore les trafics de médicaments à bas coût qui existaient déjà. Donc ça démontre bien une inégalité sociale dans la prise en charge des maladies.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour de la question, on a parlé pas mal de choses, mais donc bien garder en tête qu'il y a certes l'aspect économique, mais il ne faut pas oublier le social derrière tout ça. Et c'est un peu d'ailleurs le bilan de notre chronique.
Exactement.
Et maintenant, Victor nous présentera la rubrique...
Mais pardon !
...qui nous fera part de quelques faits surprenants.
Alors oui, je vais vous parler d'un fait assez surprenant, donc c'est le nom de ma rubrique. Donc en 2019, pendant que les scientifiques et laboratoires du monde entier tentaient de trouver un vaccin pour lutter contre le Covid-19, certains s'interrogeaient déjà sur les conditions de distribution de cette future invention. Or, il y a plus de 60 ans, les scientifiques faisaient face aussi au même défi, celui de soigner la polio touchant de nombreux enfants. La contribution de Jonas Salk et Albert Sabin à l'origine des premiers vaccins contre cette maladie est restée célèbre car ces deux scientifiques ont refusé de breveter leur invention, ce qui est assez rare à l'époque. Donc il faut savoir que la poliomyélite, et plus généralement connue sous le nom de polio, est une maladie virale responsable d'une infection du système nerveux central causant parfois la paralysie voire le décès de personnes infectées. Donc c'est une maladie quand même assez grave à l'époque, donc le but c'était quand même de la soigner assez rapidement. Donc après plusieurs années de recherche, ces deux scientifiques parviennent au résultat espéré. Dès 1954, Jonas Salk met au point un vaccin qu'il testera sur lui-même et sa famille avant d'obtenir un essai clinique, qui validera l'invention et son efficacité dès 1955. Donc suivra ensuite une campagne massive d'injection de ces nouveaux vaccins pour éradiquer la progression du virus. Donc faut savoir que ce vaccin est toujours utilisé, notamment en France, mais présente un coût lié à la nécessité de procéder à plusieurs injections de rappel. Donc, on peut souligner que ces deux scientifiques, outre leur large contribution à l'éradication d'un virus mortel dans de nombreux pays, se sont fait remarquer pour ne pas breveter leur vaccin. Donc, comme nous le savons, c'est une intention qui était louable et altruiste, mais il fallait faciliter l'accessibilité du vaccin en se le laissant libre de droit pour les laboratoires et donc accessible au plus grand nombre. Et pourtant, comme vous le savez, donc il est possible de soutenir que ces deux inventeurs ont eu le tort de ne pas déposer de brevet sur cette invention, car ce faisant, ils ont perdu le contrôle. Donc la consultation des registres de brevets révèle que la décision de ces deux inventeurs n'a pas empêché le dépôt par des tiers de brevets plus spécifiques portant sur le vaccin contre la polio ou les procédés permettant de l'administrer. Donc si messieurs Sabin et Salk avaient déposé eux-mêmes leurs des brevets, quitte à accorder des licences gratuites à qui leur demanderait, cela aurait permis de rendre le vaccin accessible à des coûts abordables, tout en gardant le contrôle de leurs inventions. Car même en dehors de toute volonté de rentabiliser les coûts de recherche et de développement, par l'octroi de licences payantes, le dépôt d'un brevet est un outil permettant de conserver la maîtrise de l'invention. Donc voilà un peu pour cette petite rubrique. Donc il faut savoir que c'était quelque chose d'assez inédit que de ne pas déposer de brevet sur un vaccin. Donc voilà.
On se retrouve pour discuter de notre sujet avec deux experts du domaine juste après la musique. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Vous aurez sans doute reconnu Don't Stop Me Now du groupe Queen. Et nous arrivons maintenant à notre dernière rubrique. Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer deux scientifiques spécialisés dans la recherche dans les médicaments et les vaccins. Notre première intervenante est Maria del Pilar Lemos, une professeure en immunologie. Les interviews seront réalisées par Alice, Rosalie et Marie.
Bonjour Maria, on aimerait savoir quel a été votre parcours de formation.
Buenos días. Bonjour, j'ai commencé mes études en faisant un doctorat en immunologie à l'université de Pennsylvanie, puis j'ai réalisé un post-doctorat à l'université Rockefeller travaillant sur la tuberculose. J'ai ensuite effectué un master en santé publique à l'université Johns Hopkins. Après cela, je suis allée travailler à HPTN, le réseau de recherche sur le vaccin pour le VIH. Je travaille depuis presque 14 ans dans cette institution, dans le centre de recherche pour le cancer Fred Hutchinson à Seattle.
Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que vous travaillez, est-ce que vous faites vos recherches actuellement, quels sont vos sujets d'études et sur quel vaccin précisément vous travaillez actuellement?
Je travaille comme scientifique de plantes à Fred Hutchinson Cancer Research Center.
Je travaille actuellement comme biologiste. La plupart de mes recherches se font avec des volontaires qui décident de participer à des recherches sur des vaccins. Je travaille sur différents vaccins, dont 16 candidats au vaccin pour le VIH et 5 pour soigner et prévenir du Covid.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence avec l'industrie?
La différence avec l'industrie, il y en a pas mal, à vrai dire. Nous travaillons avec des études cliniques, des vaccins qui sont extrêmement coûteux pour l'industrie. Nous travaillons donc essentiellement financés par les gouvernements qui ont un très grand intérêt dans le domaine de la santé publique et financent donc la recherche suivant des règles de sécurité très importantes. En effet, notre travail est de définir dans des études de phase 1, 2 et 3 la sécurité des vaccins, comment est la réponse immunitaire et quel est le niveau de protection qu'apporte un vaccin. En général, l'industrie nous donne ou accepte de partager son vaccin avec nous pour que nous puissions, avec l'aide et le financement de l'État, faire avancer l'étude à une phase qui pourra permettre sa vente. Mais nous ne travaillons pas directement dans l'industrie pharmaceutique. On travaille plutôt financé par le gouvernement dans le but de former, disons, un troisième parti, par exemple, qui évalue le vaccin de manière indépendante.
Financiados por el gobierno con el objeto de ser un, digamos, tercer partido que evalúa la vacuna de manera independiente.
Avant d'enchaîner avec la troisième question, nous pouvons vous donner, chers auditeurs, quelques précisions sur le droit des brevets à l'international. En effet, les demandes de brevets sont centralisées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le processus est ensuite opéré par le traité de coopération en matière de brevets, aussi appelé PCT. Cependant, la délivrance du titre relève des organismes nationaux et ou régionaux. Nous avons donc questionné notre invitée sur les avantages et les inconvénients, selon elle, des brevets sur les vaccins. Pourriez-vous nous expliquer, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du brevet ?
Alors je dirais que l'avantage principal de breveter les vaccins est de générer ou de garantir à la compagnie qui demande le brevet d'avoir une protection économique et de pouvoir vendre son produit pendant 30 ans sans aucune concurrence qui pourrait produire de manière moins chère. Les inconvénients sont multiples, et plus spécialement dans un contexte de pandémie ou d'épidémie, parce que la capacité de production d'une compagnie pharmaceutique peut ne pas être suffisante pour atteindre la nécessité générale. Et pour cela, il est essentiel de pouvoir produire en une plus grosse quantité que celle d'une compagnie indépendante. En général, une compagnie pharmaceutique veut protéger tout son processus de développement du vaccin avec la garantie d'obtenir un brevet. principes. 1. Pour pouvoir définir ou négocier le prix avec les gouvernements et garantir que sa technologie continue de générer des avantages économiques. Cependant, la majorité des vaccins doivent se vendre à des prix vraiment très bas, car ils vont être attribués à tout le monde et qu'ils doivent être testés sur une très grande quantité de personnes pour garantir qu'ils soient sûrs. L'investissement pour les industries pharmaceutiques n'est donc pas, on va dire, un très grand bénéfice. Et pour cette raison, on leur donne l'option de breveter pour avoir un profit plus important qui leur permet de continuer à développer et de produire des vaccins. En effet, la production de vaccins s'est vue baisser de manière générale ces dernières années. Il existe donc des conséquences négatives du fait d'avoir un brevet, par exemple les gouvernements ou les autres firmes pharmaceutiques qui voudraient utiliser cette technologie doivent alors payer des coûts souvent élevés pour pouvoir produire de manière indépendante. De ce fait, ce serait pénaliser des compagnies ou des gouvernements qui souhaitent produire le vaccin sans avoir accès au brevet.
Existen entonces para, por ejemplo, gobiernos o otras farmacéuticas que quisieran utilizar esa tecnología y ahora deben pagar para acceder a ella, unos costos tal vez elevados para poder producirla de manera independiente. De hecho, pues serían penalizadas farmacéuticas o gobiernos que quisieran tratar de producir la vacuna sin tener acceso a la patente.
Et enfin, selon vous, pourriez-vous nous dire si nous devrons lever les brevets sur les vaccins?
Comme je le disais, il me semble que c'est un problème complexe de généraliser et de lever les brevets sur tous les vaccins. Car pour de nombreuses entreprises pharmaceutiques, il n'y a plus aucun intérêt à développer et produire des vaccins. Nous nous retrouverions alors sans vaccins, car personne ne les produirait. Je considère que tout cela devrait être analysé plutôt dans un contexte spécifique pour chaque vaccin. Et je crois que cela doit se négocier entre les gouvernements et les industries pharmaceutiques pour définir aussi bien le prix d'achat du vaccin que la durée du brevet. Je considère que 30 ans est peut-être excessif pour la protection d'un vaccin par un brevet et que réduire le nombre d'années de protection est important. Il me semble également essentiel qu'il y ait certaines exceptions en cas de pandémie ou épidémie, de manière que dans les pays en voie de développement ou les pays qui font face à un problème de santé publique important aient la possibilité de produire le vaccin, et plus spécialement dans les lieux où ce vaccin ne se vend pas. C'est le cas par exemple du vaccin Moderna, qui est actuellement produit en Afrique du Sud sans l'accord de l'entreprise. Moderna n'a cependant pas encore choisi quels moyens légaux utiliser pour récupérer ses bénéfices en Afrique du Sud, puisque l'entreprise n'avait jamais eu l'intention de vendre son vaccin là-bas, alors qu'il existe une véritable pénurie de vaccins sur le continent. Mais je crois aussi que le plus important est d'insister sur le fait que lever les brevets ne garantit pas la production d'un vaccin à un prix raisonnable ou que le gouvernement pourra l'acheter. Il est donc essentiel que l'on pense un peu plus à tout ça dans le débat général, c'est-à-dire comment garantir que certains pays puissent avoir leur propre production de vaccins, que certains gouvernements puissent réussir à atteindre ces technologies et avoir du personnel compétent pour la production de ces vaccins. Toutes ces choses que j'ai évoquées nous questionner sur la levée d'une ou non des vaccins. Elles sont essentielles pour garantir la production économique, efficace et en toute sécurité des vaccins.
Que se piense un poco más allá en el debate general es en cómo garantizar que ciertos países puedan tener su propia producción de vacunas, que ciertos gobiernos pudieran llegar a alcanzar estas tecnologías y a tener personal capacitado para la producción de vacunas. que son partes que no se incluyen en tener o no tener una patente, pero que son esenciales para garantizar que las vacunas se produzcan de una manera barata y eficaz y con seguridad.
Bueno, merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses qui nous ont grandement éclairé, Maria. Nous avons du coup fini avec la première interview et nous espérons que les auditeurs l'ont trouvée aussi intéressante que nous.
Nous avons donc maintenant eu la chance d'interroger un cadre travaillant dans l'industrie pharmaceutique, mais nous n'avons malheureusement pas pu enregistrer l'interview puisqu'il lui est interdit de parler à la presse au nom de sa firme. Nous vous avons donc retranscrit ce que nous pouvons en retenir en quelques points importants. Tout d'abord, il nous a très clairement présenté les différents points de vue rencontrés sur la question du brevet et nous a fait comprendre que c'était une question très complexe, dont la réponse dépendait évidemment du point de vue. Il nous a donc expliqué de manière très claire et précise en quoi les brevets étaient essentiels pour l'industrie. Pour pouvoir rembourser la recherche, qui coûte énormément à l'entreprise, et préciser qui a découvert le produit notamment. Cela correspond à environ 4 milliards d'euros dans la recherche, le développement, les essais cliniques, etc. Ainsi, le brevet garantit à l'entreprise que personne ne récupérera son produit pour les 17 prochaines années pour le vendre à moindre coût sans avoir dépensé dans le domaine de la recherche.
En effet, un produit mettant 10 ans en moyenne à être développé et lancé sur le marché, il sera donc vendu pendant 7 ans par l'entreprise avant que la recette du produit ne puisse être récupérée par une autre usine. Ces usines sont des sociétés de génériques qui copient de manière légale en attendant la fin de validité du brevet, sans donc avoir dépensé dans la recherche du produit. C'est le cas par exemple de la société Milan. Les produits génériques font donc perdre beaucoup d'argent à l'industrie pharmaceutique, mais ils font perdre beaucoup moins de sous à la sécurité sociale, qui aura moins à rembourser sur les produits et les rendra donc plus accessibles aux populations pauvres.
La question qui se pose donc, c'est de directement vendre les produits de l'industrie pharmaceutique. La question qui se pose donc est de directement vendre les produits des industries pharmaceutiques moins chers en levant les brevets. Le but des grandes sociétés capitalistes étant de générer un chiffre d'affaires en constante croissance, ces dernières cherchent donc à breveter leurs vaccins et monter les prix, au détriment donc de ceux qui pourront plus difficilement se soigner. Elles doivent donc trouver un juste milieu afin de diminuer les coûts pour atteindre le bon remboursement de la Sécu, tout en prévoyant un bénéfice à l'entreprise sur la production du produit. Ce mécanisme est donc complexe et s'étend donc sur toute l'industrie et plus spécifiquement sur les vaccins.
Oui, parce que les brevets sur les vaccins mettent en jeu des sommes colossales. Notre intervenant a pris l'exemple du vaccin du Covid et nous a expliqué que l'entreprise Pfizer a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars sur le vaccin du Covid, alors que jusqu'ici, son produit le plus vendu, le Lipitor, qui est un médicament contre le cholestérol, lui avait rapporté 16 milliards de dollars. Notre industriel a bien insisté sur l'énormité de cette somme en nous montrant que si les brevets étaient enlevés, des sociétés comme Pfizer ne voudraient plus créer de vaccins, car n'importe qui pourrait leur voler la recette sans avoir à investir dans la recherche et le développement. La société ne réaliserait donc aucun ou peu de bénéfices sur la production de son produit.
L'avis de notre intervenant sur la question des brevets sur les vaccins diffère de ce qu'on aurait pu penser venant d'un industriel, ce qui nous a un peu surpris. En effet, il a mis l'accent sur la transparence scientifique qui n'est pas toujours appliquée. Selon lui, cette question de transparence est plus importante que la question des brevets. Une société de l'industrie pharmaceutique ne devrait pas pouvoir mentir sur un produit. Il fait ici référence au vaccin du Covid par rapport auquel il dénonce une non-transparence vis-à-vis de la population, par rapport au fait que les essais cliniques de phase 3 n'étaient pas finis avant que le vaccin soit mis sur le marché. Selon notre invité, il faudrait donc enlever les brevets sur les vaccins, puisque même si les industries pharmaceutiques ne voudront plus créer leurs vaccins aussi vite, il y aurait par exemple des universités avec des chercheurs aussi performants, selon lui, qui pourraient donc développer ces vaccins. Il considère que lorsqu'on se trouve face à un problème mondial, il faut trouver une solution sans mettre d'argent en jeu et mettre l'intérêt thérapeutique avant l'intérêt économique. Voilà donc un résumé de l'échange que nous avons eu la chance d'avoir avec un acteur de l'industrie pharmaceutique. Notre rubrique est donc terminée. On peut dire donc remercier chaleureusement nos invités du jour et dont les réponses nous ont été très enrichissantes.
Et c'était malheureusement la dernière rubrique. Mais avant de se quitter, nous allons résumer tout ce que nous avons appris lors de cette émission avec Titouan.
Et oui, donc moi je vais vous faire un petit doggy bag de cette émission. Tout d'abord, il me paraît important de rappeler que la levée des brevets elle relève pas du ressort des industries, comme on a pu le voir, mais elle relève bien de l'Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'une levée des brevets elle pourrait provoquer une diminution de l'intérêt des entreprises à se lancer dans la recherche d'un vaccin, puisque, comme on l'a expliqué, elles ne sont finalement pas sûres de réussir à le développer. Ensuite, il me paraît important de vous rappeler que donc, les demandes de brevets sont centralisées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est vrai, mais que la délivrance du titre relève des organismes nationaux ou régionaux et que donc cette levée des brevets est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Si on résume un petit peu ce débat, les deux aspects vraiment qui sont au centre, c'est d'abord un aspect social, bien sûr, avec donc la question de l'équité de l'accès aux soins, le constat indéniable d'un déséquilibre fort entre donc les pays en voie de développement et puis les pays développés. Mais c'est aussi un enjeu économique fort, avec en premier lieu l'enjeu de la recherche et du développement, puisque c'est le nerf de la guerre dans la recherche médicale, puisque sans les brevets, les entreprises n'ont aucun moyen de s'assurer un retour sur investissement, sauf si celui-ci est garanti par des institutions publiques. Mais dans une autre mesure, la levée des brevets pourrait permettre de produire des vaccins avec un coût accessible pour les pays, notamment en développement. Donc effectivement, ce débat reste toujours ouvert et bien évidemment d'actualité. Et puis donc vous pouvez retrouver toutes les sources de cette chronique sur notre site internet https.leschroniquesdelinnovation.com.
Merci à tous.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette émission vous a plu et on vous dit à la prochaine.
Salut.